Voilà, donc c'est le temps de la prédication. Et avant de lire encore deux textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous tournons vers toi encore pour réclamer ton secours, pour nous aider à comprendre ta parole et à la considérer avec tout le respect et toute l'attention qu'elle mérite. Amen. Je voudrais vous lire deux textes. Le premier texte est en Actes 28, les versets 11 à 16 et 30 à 31, qui raconte un peu le dernier voyage de l'apôtre Paul lorsqu'il arrive prisonnier à Rome. Actes 28, 11 à 16. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, à les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Et verset 30 du même chapitre 28, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et nous lisons maintenant le deuxième passage en Philippiens 1, les versets 12 à 14. Et c'est sur ce passage que portera la prédication. Philippiens 1, versets 12 à 14. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors, voici mon plan, je vais, dans l'introduction, parler un peu des relations qui unissent Paul à l'église de Philippe. Puis après, je vais prendre ces 3 versets l'un après l'autre. Le premier point sera sur le verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères ». Le deuxième point sera sur le verset 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens ». Et le troisième point, au verset 14, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. » Pourquoi donc ces frères sont-ils encouragés par les liens de Paul? Et je conclurai ensuite. Alors, tout d'abord, quelques explications en guise d'introduction. La lettre aux Philippiens est une lettre écrite par l'apôtre Paul vers l'an 60 à l'église de Philippe. Elle évoque une période de captivité de Paul, vraisemblablement sa première détention à Rome, celle que nous avons justement lue en Actes 28. Comment Paul a découvert Philippe, cette église, cette ville ? Eh bien, c'est lors de son deuxième voyage missionnaire vers l'an 49 que Paul a une vision, celle d'un Macédonien qui l'implore « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et aussitôt, il s'embarque de Troas en Asie, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, avec ses équipiers pour aller en Macédoine, 200 km plus au nord et plus à l'ouest, sur le continent européen. Et une fois débarqué, la première grande ville qu'ils vont rencontrer, en bout de la voie Ignatia, c'est la ville de Philippe, qui est une colonie romaine. Et dans cette ville, l'apôtre va faire deux rencontres marquantes. La première rencontre, c'est celle de Lydie. À Philippe, la première rencontre marquante est donc celle de Lydie. Lydie n'est pas une Macédonienne, c'est une Asiatique qui fait le commerce de la teinture pourpre, spécialité de Thyatire, sa ville d'origine. Paul et Silas la rencontrent un jour de sabbat, une réunion de prière entre femmes en dehors de la ville, et Lydie est touchée par leur enseignement. Elle ouvre son cœur, et après avoir été baptisée avec toute sa famille, elle ouvre sa maison. D'emblée, Lydie se montre généreuse et attentionnée envers l'équipe missionnaire. Il y aura une deuxième rencontre dans cette ville, c'est celle du geôlier. La deuxième rencontre marquante est celle de Paul et Silas avec leur geôlier. Arrêtés pour de mauvaises raisons, ils sont en effet mis en prison après avoir été battus. Mais dans cette prison où ils auraient dû être brisés, effrayés, découragés, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu. Après un tremblement de terre providentiel qui désentrave tous les prisonniers, et au moment où le geôlier, croyant tous ses prisonniers évadés, s'apprête à se suicider, Paul l'arrête d'une voix forte. « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » C'est une révélation pour le geôlier, qui accepte aussitôt l'évangile et reçoit le baptême, lui et sa famille. Et il est dit qu'il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ainsi, d'emblée, la relation de Paul avec les premiers croyants de Philippe est placée premièrement sous le sceau de la générosité. Générosité dans l'accueil, dans l'hospitalité, dans l'acceptation du message du salut, puisque ce sont les maisons, ce sont les familles entières qui sont baptisées. Et deuxièmement, cette relation est placée sous le sceau de la joie. La nuit, là, dans la prison, le geôlier se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Il se réjouit. Puis, Paul va devenir prisonnier à Rome. Le quatrième voyage de Paul vers l'an 60, peut-être 60, oui. Ce quatrième voyage ne se passera pas comme il l'aurait souhaité, car c'est en tant que prisonnier devant comparaître devant César qu'il va entrer dans Rome. Mais dans l'attente de son jugement, il va pouvoir vivre en résidence surveillée, comme nous l'avons lu, sous la garde d'un seul soldat, dans une maison qu'il aura lui-même louée, ce qui lui permettra de recevoir et d'enseigner toutes les personnes qui voudront bien le visiter. Et donc, dans cette lettre aux Philippiens, Paul, depuis Rome, prisonnier, remercie l'église de Philippe pour son soutien. Dès le début de sa fondation, l'église de Philippe a soutenu le ministère de Paul. On le voit dans Philippiens 4, verset 16. Or, pendant son séjour forcé à Rome, Paul a des frais. En particulier, nous l'avons vu, il loue sa maison. Le soutien financier que lui apporte l'église de Philippe est donc le bienvenu. Ce soutien lui parvient cette fois par le moyen d'Épaphrodite. On le voit en Philippiens 2, verset 25. Un frère envoyé par l'église de Philippe. Et c'est en quelque sorte par courrier retour, par le moyen du même frère, que Paul adresse cette lettre de remerciement aux Philippiens. Voilà pour pour le contexte. Revenons maintenant au verset qui nous intéresse, de Philippiens 1. Nous voyons qu'au verset 12, Paul commence sa phrase par cette mystérieuse affirmation « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » C'est le premier point. Qu'est-ce qui caractérise la relation très amicale de Paul avec l'Église de Philippe et qui en font des confidents privilégiés? Est-ce pour justifier l'argent que les Philippiens lui donnent que Paul s'exprime ainsi? Est-ce pour leur signaler que son ministère est encore actif et qu'ils peuvent continuer à donner? Certainement pas. Paul l'écrit plus loin, en Philippiens 4, versets 10 et 11. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » En fait, nous l'avons vu, dès le départ, les Philippiens se sont distingués par leur générosité et la joie d'être sauvés. Et dans ce même esprit, ils sont heureux de contribuer, en soutenant financièrement Paul, à la propagation de cet évangile libérateur. Il y a ainsi une communion d'esprit, une intimité entre Paul et les Philippiens. Les Philippiens apprécient pleinement le ministère de Paul, et Paul se sent compris, soutenu dans tout ce qui fait toute sa vie, le combat pour l'Évangile. D'autres ont accepté l'Évangile que leur a apporté Paul, mais n'ont pas pour autant éprouvé le besoin de le soutenir dans son ministère. D'autres ont appris qu'il avait été emprisonné et en ont profité pour se démarquer de lui, pour prendre leur distance. Ce n'est pas comme ça que les Philippiens pensent. Et c'est un grand réconfort pour l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Paul se sent libre de leur dévoiler cette victoire cachée. C'est vrai, il est dans les chaînes, mais loin d'avoir mis un coup d'arrêt à son ministère, cela a au contraire permis à l'Évangile de progresser. Et cela donne une occasion à Paul comme aux Philippiens de se réjouir ensemble. Les Philippiens ne sont pas les champions des charismes, comme les Corinthiens. Les Philippiens n'ont pas en leur sein des docteurs et des prophètes les plus réputés comme l'Église d'Antioche. Mais les Philippiens ont en abondance amour et générosité. Et c'est ce que l'apôtre ressent et qui lui permet d'aller un peu plus loin dans le partage de cette extraordinaire épopée de l'annonce de l'Évangile. Nous aussi, nous avons tout à gagner à être accueillants et généreux envers nos frères et sœurs à l'œuvre. C'est un baume pour eux et une occasion d'édification pour nous. Et il peut en être de même dans notre relation avec Dieu. Rappelons-nous ce que dit Jésus à ses disciples en Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ainsi, avec les véritables apôtres, comme avec le Seigneur, l'amitié va de pair avec une révélation particulière, spéciale du royaume de Dieu. Et c'est cette amitié que Paul cultive avec les Philippiens et qui le conduit à leur révéler l'accès qu'il a eu au prétoire. C'est l'objet de mon deuxième point qui porte sur le verset 13 et qui montre que la situation de Paul lui offre, oui, un accès inespéré aux soldats de la garde prétorienne. Deuxième point donc au verset 13 qui dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » qu'était ce prétoire ? Ici, à Rome, c'est la garde prétorienne qui était une unité d'élite de l'armée, très bien payée, dont la principale mission était d'assurer la sécurité de l'empereur. Mais elle avait aussi pour prérogative de défendre Rome contre ses ennemis extérieurs et aussi ses ennemis intérieurs, et elle assurait pour cela des missions secrètes. Cette garde était constituée à l'époque de l'apôtre Paul de 12 cohortes de 500 hommes, soit environ 6 000 prétoriens. Et leur caserne, située au nord-ouest de Rome, était une véritable base militaire fortifiée, comprenant notamment, outre les baraquements, une salle du trésor, un hôpital, un hôtel dédié à Mars et un tribunal. Cette garde avait beaucoup de pouvoir et elle ne craignait personne. Ainsi, l'accession de Néron au trône en 54 n'avait été possible qu'après validation des chefs prétoriens. La garde prétorienne constituait donc une micro-société apparemment bien peu accessible à ce nouveau courant de pensée qu'était le christianisme. Mais voilà, Paul, de son côté, a émis un vœu, celui d'aller à Rome. Et Dieu va exaucer ce vœu à sa manière. Paul a cet avantage d'être citoyen romain, ce qui lui a permis d'en appeler à César dans le contentieux qui l'oppose aux chefs religieux à Jérusalem. Par ailleurs, Paul, avec le secours du Saint-Esprit, va faire prendre, au cours de son voyage vers Rome, Paul va faire preuve durant son voyage, et particulièrement pendant cette tempête qu'il va traverser, il va faire preuve de qualités qui s'accordent bien avec l'esprit militaire. En fait, Paul a toutes les qualités d'un bon officier romain. On peut noter d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, les centurions sont toujours bien notés dans le Nouveau Testament. Et on peut lire d'ailleurs que Julius, le centenier en charge du convoyage de Paul, le traitait avec bienveillance, il l'appréciait. Nous avons donc la conjonction suivante, une micro-société fermée, la garde prétorienne, un prisonnier Paul dont la réputation d'humanité, de courage, de sang-froid le précède auprès des soldats, un acte d'accusation qui reprend son discours au roi Agrippa d'acte 26, autrement dit son propre témoignage en même temps qu'un remarquable exposé de l'Évangile. Et enfin, nous avons deux années durant lesquelles Paul va côtoyer les militaires de la garde prétorienne. Le résultat, c'est que le message de l'Évangile va se transmettre. Le verset 13 de notre texte dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et cette fréquentation va produire de beaux fruits, puisque Paul va conclure sa lettre aux Philippiens par des salutations et assurer en particulier que tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Philippiens 4, 22. Il s'est donc créé une église dans cette caserne. Permettez-moi un parallèle avec ce que nous avons vécu cette année. Cette année 2024 qui s'achève a été marquée par un bien triste événement. Le décès du petit Mathis Lerin, 12 ans, des suites d'une maladie rare, l'AMM, après 8 mois passés à l'hôpital Necker à Paris. Seuls celles et ceux qui l'ont côtoyé de près durant ces longs mois peuvent dire le terrible chemin par lequel il est passé. Ce n'est pas mon cas. Mais j'ai écouté les témoignages de ces personnes. celui de Matisse lui-même tout d'abord, qui a rendu témoignage avec sincérité de sa foi en Dieu le jour de son baptême, ici même, celui de son oncle infirmier, qui a rendu compte le jour des obsèques de son extrême politesse envers le personnel soignant, jusque dans ses derniers jours, celui enfin de sa maman, le jour de ses obsèques également, qui a témoigné de la réponse de tous les personnels, médecins, infirmiers et de soignants, venus dire au revoir à Matisse, à qui elle posait toujours la même question : que retiendrez-vous de Matisse ? La réponse a été unanime : sa foi. Nous retiendrons sa foi. En entendant ces témoignages, je me suis dit que dans cet hôpital Necker, vaste établissement multicentenaire, mondialement renommé pour la prise en charge des enfants malades, aux milliers d'employés de toutes catégories, l'Évangile avait, par le moyen de Matisse, assurément progressé. Alors, maintenant, Seigneur, montre-nous-en les fruits. Je reviens à Paul. L'apôtre se réjouit donc de partager cette confidence, à savoir que tous désormais dans le prétoire savent que c'est pour Christ qu'il est enchaîné. Mais il ajoute autre chose. Et la plupart des frères, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Philippiens 1, 14. Comment expliquer ce paradoxe ? Paul enchaîné, mais les frères encouragés. C'est l'objet de mon troisième point. Il faut se rappeler que très souvent, lorsque Paul a pris la parole tout au long de ses voyages missionnaires, il a provoqué une levée de boucliers, comme si on lui refusait le droit de parler. On pourrait faire un florilège de tous les propos tenus et des actions engagées contre Paul pour le faire taire. Les méthodes sont diverses. La contradiction, l'injure, l'accusation de trouble, la moquerie, l'accusation de profanation, mais toutes visent à faire taire l'apôtre. On peut penser que les chrétiens de Rome ont eu vent des oppositions qu'il a eu à affronter. Ils ont peut-être eu vent aussi des oppositions que les autres missionnaires ont eu à affronter. On peut penser que même lorsqu'ils ont voulu témoigner de leur foi, on sentit également de la résistance. L'une ou l'autre raison les a conduits à adopter une attitude réservée, prudente. Mais voici que Paul arrive à Rome, accompagné par les soldats et protégé par eux, et qu'il se plie à la procédure judiciaire dont l'aboutissement sera un procès qui établira si l'évangile de Paul est bon ou mauvais aux yeux de Rome. Paul n'est plus un paria qui fait hurler les juifs jaloux et les païens en perte de revenus. C'est un citoyen romain qui va plaider sa cause devant l'empereur. L'homme que l'on faisait passer pour indigne ou insensé est jugé digne de plaider sa cause devant l'empereur. Cause que tous apprennent à connaître, c'est celle du salut obtenu par la foi en Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens reprennent courage et se libèrent de cette chape qui pesait sur eux pour les faire taire. Désormais, si on leur demande raison de leur foi, ils pourront simplement dire « C'est la même foi que Paul qui a fait appel à l'empereur à ce sujet ». Pour illustrer cette explication, je voudrais donner l'exemple de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. En 2020, elle a subi de plein fouet la première vague de Covid-19. Pendant qu'elle pleurait ses morts, 31 au total, elle subissait un torrent de haine sur les réseaux sociaux pour avoir créé un cluster bien malgré elle, avec sa semaine de jeûne et prière ouverte à tous. Puis, petit à petit, des informations plus raisonnables sont remontées, montrant que cette Église n'avait été ni irresponsable ni laxiste. Et cela a provoqué une deuxième réaction de sympathie cette fois et de curiosité de la part des médias et du public. On voulait savoir quel était ce mouvement évangélique dont elle se réclamait, tant et si bien que son pasteur a fini par coécrire un livre de ces événements dont le titre est « La déferlante, cette crise qui a révélé les évangéliques ». Donc, dorénavant, les évangéliques dont nous sommes des protestants évangéliques, les évangéliques peuvent dire qu'ils appartiennent à ce mouvement révélé par les déboires de cette Église alsacienne. Aujourd'hui, comme au temps de Paul, les crises que traversent les chrétiens véritables sont des accélérateurs de reconnaissance dont nous pouvons tirer profit pour témoigner de notre foi en Dieu et en l'œuvre de son Fils Jésus. Efforçons-nous de ne pas les laisser passer. Je conclus maintenant. La lettre aux Philippiens brille d'un éclat tout à fait particulier dans le Nouveau Testament. En effet, dans aucun autre livre, la joie n'est autant citée. Et contrairement à toutes les autres épîtres, l'apôtre ne formule aucun reproche aux Philippiens. Quel privilège pour l'apôtre Paul d'avoir un soutien aussi généreux et amical de la part des Philippiens. Et quelle joie pour les Philippiens d'avoir ainsi accès, étant au premier loge, au récit des progrès de l'Évangile rapporté par le grand apôtre. Et ce récit nous montre que, contrairement aux apparences, l'emprisonnement de Paul a été utile à la propagation de l'Évangile, utile de deux manières, un par l'accès qu'a eu ainsi l'apôtre au prétoire, cet état dans l'état, pour y diffuser largement et assez librement l'Évangile salvateur, et utile, deuxièmement, par l'encouragement et la libération qu'a été pour les chrétiens la comparution du citoyen Paul dans le prétoire au sujet de sa foi. Chers amis, nous sommes en chemin vers le royaume glorieux de Dieu. Mais beaucoup autour de nous et au loin marchent au bord du précipice de la mort éternelle, de la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors, réjouissons-nous pour les frères et sœurs qui consacrent leur vie au progrès de l'Évangile. Réjouissons-nous et soyons fiers chaque fois que nous voyons cet Évangile gagner du terrain. Amen.